à tous dans ce premier dimanche de l'année. Dieu vous bénisse, ça va? Dimanche prochain, je ne serai pas là, je prêche à Paris chez le pasteur Alexandre. Et voilà, ceux qui voudront venir avec nous, vous serez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse là-bas aussi. Et il fête ses 27 ans de ministère, le frère. C'est pas rien, hein? C'est intéressant. Que Dieu le bénisse avec son épouse et sa famille. Il me téléphone régulièrement, il est gentil ce frère. Moi, je lui ai dit, excuse-moi, moi je ne suis pas téléphone, c'est vrai, il faut absolument que je lui téléphone, sinon il va penser que je ne l'aime pas. Mais lui me téléphone souvent, c'est gentil, c'est un très gentil frère, frère Alexandre. Ils vont venir, mais on les invitera pour le printemps, parce que là, c'est pas beau, là. Il fait trop froid, c'est très, très, trop désagréable. Ézéchiel 3, chapitre 3, versets 16 à 17, s'il vous plaît. Vous avez tous bien commencé l'année, tout se passe bien. C'est bien, 3, 16. Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. Je me suis dit, Dieu jugera le juste et le méchant. Car il y a un temps pour chaque chose et un lieu pour chaque œuvre. Amen. J'étais tenté de prendre le texte, il y a un temps pour semer, un temps pour moissonner, un temps. Frères et sœurs, rien de ce qui a été semé ne peut se mettre à sortir de terre si le souffle de Dieu ne souffle pas sur ce qui a été semé. Il faut la vie, il faut la vie. On est le 3 janvier aujourd'hui et dehors, quand on regarde, tout semble mort, les arbres, tout ça... C'est terrible de voir ça comme ça, hein? Surtout quand on revient d'Afrique où tout est tellement ensoleillé, bruyant. Mais il y a une rencontre qui se prépare, entre ce qui a été semé et le souffle de Dieu. Ça se prépare, ça ne se voit pas, mais c'est là, ça se prépare. Ici-bas, nos pensées aussi, celles que nous avons semées, nos paroles, celles que nous avons semées, nos actions que nous avons semées, tout cela a été semé sur un terrain, notre âme, et sur l'âme des autres aussi, et sur l'âme de ceux que nous côtoyons. Et ce terrain, il a aussi un pouvoir germinateur. Il faut bien qu'on comprenne cela. Il y a un pouvoir germinateur dans la terre, mais il ne peut pas avoir ce pouvoir si le souffle du Créateur ne vient pas. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, on ne récolte pas toujours ce que nous semons. Dieu ne donne pas vie à toutes nos pensées, à toutes nos paroles, à toutes nos actions. Heureusement, hein? Parce que si c'était une loi absolue, la loi de la semaille et la loi de la moisson, la vie serait un chaos terrible. Parce qu'alors, qu'est-ce qui trafique comme pensée négative, comme chose négative sur cette terre, et même des fois dans nos cœurs? Heureusement, Dieu veille sur nous, Dieu veille sur les siens, et il ne donne pas vie à tout ce que nous semons, heureusement. Merci Seigneur, c'est de l'amour. Parce que parfois, ça pourrait être dangereux pour nous-mêmes, ça pourrait être dangereux pour les autres, hein, on les compte, mais Dieu tient toutes choses en ses mains. Là encore, on voit que c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le Seigneur. Même toutes nos prières ne sont pas exaucées, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Dieu sait pourquoi il n'exauce pas toutes nos prières. Et il fait toujours toutes choses par amour. Cependant, c'est l'union entre ce qui est semé et le souffle de vie, c'est de l'union de ces deux choses que peuvent naître, que peuvent venir à la réalité, que peuvent prendre corps, que peuvent être produites les choses, les événements, les situations. Si nous ne semons rien, il ne peut pas y avoir de récolte. Nous sommes maintenant, dans une période où Dieu dit, alors maintenant, faites selon ma volonté. Ma volonté a été exprimée, tout a été accompli, maintenant c'est à vous de faire. Et quand nous faisons, alors Dieu souffle dessus et fait prospérer les choses. Il nous a tout donné, maintenant nous avons la totalité, nous avons la parole de Dieu, nous avons la Bible. Ce n'est pas comme du temps de Moïse, ou du temps d'Abraham, ou du temps d'Ézéchiel, où il y avait très peu de choses dites. Dieu, il y avait beaucoup de mystères encore, mais maintenant tous ces mystères ont été révélés. Il n'y a qu'un seul mystère qui n'a pas été révélé, mais ce n'est pas à nous qu'il n'a pas été révélé, C'est aux Juifs qu'il n'a pas été révélé, à savoir Christ en nous. On va voir un peu plus loin dans la prédication que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prennent pas ça au sérieux. Christ en moi, Christ en toi. On dirait que ça ne leur a pas été révélé. C'est révélé, en tout cas c'est dans le livre. Mais maintenant, l'ont-ils étudié? Ont-ils cherché la connaissance? Dieu est souverain. Personne n'est maître du printemps. Personne n'est maître de l'été, des moissons, de rien du tout, si ce n'est Dieu. Quand le printemps vient, c'est à cause de la promesse qu'il a faite à Noé. Hein, vous connaissez la loi noaïque, l'alliance qu'il a faite dans Genèse 28-22. Alors il dit, tant que, n'est-ce pas, alors il y aura toujours les moissons, les semailles, toutes ces choses-là, l'hiver, l'été, le printemps. La rencontre entre les semences et la vie se manifeste alors à ce moment-là, au moment du printemps, dans un foisonnement de possibilités. Mais toutes les graines qui sont produites ne vont pas produire véritablement ce... elles-mêmes aussi, parce qu'alors à ce moment-là, la terre serait complètement envahie. Vous avez vu la profusion, c'est un foisonnement. La prospérité, elle est là, on la voit. La santé, la réussite, tout ce que vous désirez, eh bien, ça ne se situe pas seulement au printemps, ça commence avant, mais au printemps, ça se manifeste. On va vers le printemps maintenant. Tous les secrets de la terre, toutes les choses secrètes dans ton âme, tout ça, ça a l'air... Et on dirait qu'il n'y a rien qui se manifeste. Mais c'est déjà en train de commencer. C'est déjà, ça existe déjà, sous forme de pensée, sous forme d'émotion. Et le printemps, c'est le moment de la manifestation extérieure de toutes ces choses-là. Aussi bien celles qui sont dans la terre que celles qui sont enfouies dans ton âme. Tes aspirations, tes désirs, tes pensées. Tant que vous ne voyez pas se réaliser ce que vous espérez, il ne vous faut pas douter. Par la foi, nous appelons les choses qui ne sont pas, et elles deviennent des réalités. Et il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Et entre ces deux temps, il y a un temps. Et nous sommes pour beaucoup dans ce temps-là. Nous sommes pour beaucoup dans ce temps-là, où il semble que rien ne se passe. Et puis, il y a le début de la chose. Qui commence à se manifester. Mais la moisson, c'est que plus tard, il y a un temps entre le moment où la graine commence à germer, où il y a une petite herbe qui sort, et puis le temps de la moisson. Nous devons veiller sur notre comportement dans toutes les phases. Pas être dans la joie seulement dans la moisson, mais être dans la joie à cause de l'expectative, à cause de l'attente, en sachant, en nous réjouissant déjà. C'est pour ça que Jésus dit « Réjouissez-vous ». Comme si vous l'aviez déjà. Ça, c'est la foi. Ne pas céder au doute, ne pas céder au découragement. Beaucoup de gens, par exemple, j'enseigne au sujet de la guérison, perdent leur guérison dans le temps. Parce qu'à un moment donné, quand nous chassons l'esprit de maladie, il sort du corps. La maladie qui est dans le corps, elle est là encore physiquement, peut-être sous la forme d'un glaucome, sous la forme d'un cancer, sous la forme d'une masse quelconque, d'une arthrite, d'une arthrose, que sais-je. Et il faut que le corps, maintenant, puisque la vie de la maladie n'est plus là, le corps qui est malade va se réparer. Et il faut un temps, il faut du temps. Et c'est pendant ce temps-là que les gens perdent la foi en disant « Ah, oh, j'ai été prié, le frère Michel a prié pour moi, il ne s'est rien passé ». Faux. Il s'est passé quelque chose. La vie de la maladie a dû quitter le corps parce qu'au nom de Jésus, ses esprits sont soumis et doivent obéir. Mais maintenant, il faut du temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle la guérison. Maintenant, le miracle, ça, c'est instantané. Mais ça, c'est un miracle. Maintenant, la guérison que Dieu opère, il y a le don de guérison, il faut le temps. Eh bien, c'est la même chose pour beaucoup d'autres semences, pour beaucoup d'autres choses. Nous devons rester patients et dans la foi, dans le calme, avec l'assurance que ce que nous avons semé, Dieu va y donner vie. Nous devons toujours avoir cette assurance. C'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Qu'est-ce qui va prendre vie? On doit avoir confiance que c'est le bien qui va prendre. Que c'est le bien qui va avoir existence, qui va vivre. Parce que toute chose concourt à notre bien. Mais il faut du temps entre le moment où c'est semé et le moment où ça arrive. Mais ce qui arrive, c'est le bien. Pas forcément celui que tu veux, mais celui qui est vraiment bien pour toi. et nous ne sommes pas maîtres de l'hiver, et nous ne sommes pas maîtres du printemps, et nous ne sommes pas maîtres de la moisson. Par contre, chacun de nous est en mesure d'accompagner la fluidité entre le printemps, l'été, l'hiver, l'automne qui passe aussi. Frères et sœurs, on sait que Jésus est à la porte. On sait qu'il vient sur les nuits du ciel et qu'on va partir à sa rencontre. Maintenant, comme nous l'a dit le prophète, on sait que l'enlèvement, c'est un processus. On sait qu'il y a premièrement un signal qui est donné, ensuite un cri de rassemblement, et puis après, une action de Dieu, la trompette. Mais d'abord, il y a sur la terre ces deux choses qui se produisent. Beaucoup de chrétiens ignorent même qu'il y a déjà eu un signal donné, ils ne savent pas. Et puis, maintenant qu'il y a un cri de rassemblement, ils ne savent pas. Et ils vivent comme au temps de Wesley ou de Luther. Ils sont des bons protestants, mais voilà, ils n'ont pas suivi le processus. Ils n'ont pas accompagné le processus. La moisson, elle est grande, et c'est la moisson du Seigneur, c'est à lui. Nous sommes le fruit qu'il vient récolter. Mais observez comment il nous parle. Pour que les choses viennent, c'est par la parole, par sa parole, quand il parle, il crée. D'abord, il nous a appelés. Ensuite, il nous a placés dans son église. Ensuite, il nous en a fait sortir, curieusement, des organisations humaines. Il a épuré, afin que nous ne participions pas à ses mauvaises œuvres et que nous ne soyons donc pas dans le châtiment qu'elles méritent. Puis, il nous a appelés ses serviteurs. Puis, maintenant, il nous a montré une phase supérieure, celle d'entrer dans le cercle de ses amis, de ceux qui sont dans le secret des intentions de Dieu, selon Jean 15, 15. Ceux-là seulement seront l'épouse. Dans chaque âge, il y a des vainqueurs. Et ceux-là seuls qui rentrent dans le cercle des amis, de ceux qui sont dans la confidence, de ceux qui sont dans le secret des intentions de Dieu, ceux-là seuls pourront faire la volonté de Dieu. Et ceux-là seuls qui font la volonté de Dieu peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Eh bien, c'est comme pour le blé. Le grain, d'abord, il meurt en terre. Ensuite, il donne une tige, appelée à sortir de terre. Elle est appelée à sortir de terre. Puis, elle donne une tige, ensuite des feuilles, un épi qui est rempli de grains. Mais ce n'est pas encore la fin. Beaucoup de gens disent, nous avons le plein évangile parce qu'ils voient le grain. Mais le grain, il y a encore la balle qui est autour et il faut que la balle soit ôtée. Et Jésus vient avec son vent à la main, c'est-à-dire pour frapper le grain. Le jugement commence par la maison de Dieu. La balle ressemble au grain, on dirait le grain. C'est comme le Canada Dry. Hein. Mais la balle, qui a la forme du grain, elle doit être jetée au four. La même chose que la tige, la même chose que la feuille. Et pourtant tout ça, c'était quelque chose de sain au départ. Mais ça sera jeté au feu. Vous voyez, eh bien, les choses qui arrivent sur terre, les pensées que nous semons, les actions que nous semons, qui doivent germer, qui doivent donner du fruit, c'est la même chose, c'est aussi un processus. Ce n'est pas comme ça du tac au tac. Des gens disent, oh, je vais donner ma dîme et je vais récolter. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est pour les bébés spirituels. Il y a des enseignements plus profonds que ça. Bien sûr que c'est une semence et bien sûr que c'est une moisson. Mais entre la semence et la moisson, il y a des saisons. Dieu opère des transformations. Il y a des changements qui peuvent inquiéter ceux qui aiment la tradition, qui peuvent inquiéter ceux qui aiment l'inertie, qui n'aiment pas les surprises. Les changements, ils sont nécessaires, ils sont voulus de Dieu. C'est imposé à nos vies par le Seigneur de la vie lui-même. Alors il faut qu'on entre et qu'on accompagne ce mouvement de transformation, ce mouvement de changement, il faut qu'on l'accompagne pour qu'il ait de la fluidité. C'est-à-dire que dans notre pensée, on ne soit pas toujours devant des murs, en train de se choquer, en train de se heurter par des mauvaises compréhensions, à des détails, plutôt que de regarder le but qui est, n'est-ce pas, la moisson. Pour arriver à votre bien qui sera le résultat de tout ce qui arrive, qui concourt justement à votre bien, eh bien, pour arriver à ça, il y a tout un temps. Et ce temps, il semble sans fruit. Il vous semble que vous investissez beaucoup et que vous récoltez peu. Attendez, attendez. Les paysans ne sont pas des énervés en général. Hein. Ils savent attendre, ils connaissent. Ils ont la connaissance, la gnose. Ils ont la connaissance des choses de la nature. Et Jésus voudrait bien que nous ayons aussi la connaissance des choses des Écritures pour que nous nous comportions différemment, qu'on ait le comportement juste pour pouvoir être dans cette fluidité. Dieu réunit toutes les capacités pour engendrer des situations nouvelles pour chacun d'entre vous. Mais ces situations, elles ne trouvent leur accomplissement que dans le temps. Que dans le temps. Et c'est là que les chrétiens perdent leur bénédiction par manque de connaissances. Ils ne savent pas attendre. Ils ne savent pas attendre. Ils veulent tout, tout de suite. Des fraises en hiver. Comme notre génération de déséquilibrés. Les enfants trouvent que c'est normal d'avoir des fraises en hiver. Parce qu'ils ont toujours vu ça. Mais moi, quand j'étais gamin, on n'avait pas de fraises en hiver. Vous aviez des fraises en hiver, vous ? Nous, en Suisse, on n'avait même pas de poisson. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, ça existait. Ou alors, c'était un truc pour les riches. Mais pour les gens de la middle class comme nous, on ne pouvait pas avoir, à part des brochets, parce que ça poussait chez nous, ça, les brochets. Hein, puis les truites, puis les perches. Dans le lac Léman, les perches. Les perchettes. Mais autrement, on n'avait pas des étalages. Mais maintenant, vous avez tout, tout le temps, tout de suite. Quelqu'un dit, oh, je voudrais du caviar. Ben, tout de suite, il peut en avoir. Enfin, moi qui. On faisait une carte bleue, un chèque sans provision. On peut avoir tout ce qu'on veut maintenant. C'est une société comme ça. Eh bien, on n'est pas obligé de rentrer dans ce cercle-là du monde. Ça, c'est l'esprit du monde. Avec Jésus, c'est différent. Mes frères et sœurs, la vie, elle fonctionne au cœur de la situation, quelle qu'elle soit. Elle est là, la vie. Elle est là. Même si tout semble mort, elle est là. La vie est là. Si vous aimez Dieu et si vous êtes appelé selon son dessein, la vie est là. C'est donc de cela dont vous devez vous occuper premièrement. Savoir si vraiment vous aimez Dieu ou si c'est par intérêt que vous le suivez. Pour ne pas être perdu, pour être abondant, pour avoir la santé, pour être délivré de vos démons. Pourquoi est-ce que vous le suivez ? Hein? Est-ce que vous l'aimez ? Et est-ce que son appel est véritablement sur votre vie ? Ces certitudes, mes frères et sœurs, elles sont vissées dans le cœur des enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Quand je dis que c'est vissé par le Saint-Esprit, dans notre esprit, eh bien, c'est vissé par l'Esprit qui a dicté les Écritures. Les religieux sont animés par des esprits religieux. Et ils ont des interprétations de l'Écriture. Ils pensent que un enfant de Dieu, lui, une semence divine, il a la vie en lui-même qui témoigne à son esprit, parce que la vie, c'est l'esprit de Dieu, c'est la vie, qui témoigne à son esprit, oui, je lui appartiens, oui, je suis de sa race. Comme je le disais au début. Un enfant de Dieu ne cherche pas à avoir la foi du charbonnier. Ne cherche pas à avoir une foi sans complications. Il ne cherche pas seulement à avoir une bonne apparence. Oui, moi je crois dans la Bible qui est la parole de Dieu. Ça, c'est l'apparence. Mais ce qu'il veut, c'est croire véritablement tout ce qui est dans la parole de Dieu. Il ne cherche pas à ignorer tout ce qui est complexe dans la parole de Dieu. Il ne cherche pas à ignorer tout ce qui est incommodant dans le message de la parole de Dieu. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui ne cherche pas, il ne trouve pas. Il peut avoir 50 Bibles chez lui. Il peut la lire 2 heures par jour, 3 heures par jour. C'est un état d'esprit. Et de nos jours... Dieu vient à la rencontre de son épouse jusqu'à la toucher. Il se penche jusqu'à elle, mais aussi son épouse va à la rencontre de son Dieu jusqu'à le toucher. Elle s'élève jusqu'à lui. Elle ne reste pas passive à attendre, en dormant. Un enfant de Dieu ne reste pas prostré dans une espèce d'humilité religieuse. Un enfant de Dieu, il élève son esprit. Et comment est-ce qu'il élève son esprit ? Maintenant, la mode, c'est la louange. Mais on n'élève pas son esprit par la louange. On élève son esprit par la connaissance des Écritures, mes frères et sœurs, qui, eux, nous poussent à la louange. parce que c'est une louange en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole, et la parole est le fruit de l'esprit. C'est le don que l'esprit nous a fait en dictant ces choses aux apôtres, aux prophètes. Il mélange, il saute une étape, vous voyez, c'est comme si, par exemple, on semait aujourd'hui en pensant que demain on va récolter, on saute des étapes, c'est faux. Alors ce sont des louanges d'émotion, mais ce ne sont pas des louanges basées. Après, quand vous parlez avec eux, vous apercevez qu'ils n'ont pas une base sur laquelle leur louange est établie. Ils sont pleins de murmures, pleins d'hésitations, pleins de rancœurs, c'est terrible. Nous devons élever notre esprit par la connaissance. Un enfant de Dieu, il apprend que tel Jésus est, tel il est lui-même dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Et c'est lourd de conséquences, mes frères et sœurs, cette connaissance-là. Quelqu'un qui apprend ça, d'abord c'est un choc, il doit l'assimiler, c'est une nourriture, il doit la digérer, c'est une nourriture lourde. Mais c'est une nourriture qui va aller se transformer en muscle, en énergie, en puissance, en dynamisme dans sa vie, qui va lui permettre d'ajuster son comportement à l'Écriture qui dit qui il est véritablement. Amen. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il ajoute, chaque fois qu'il mange quelque chose, il ajoute quelque chose à sa vie. Chaque fois qu'il digère quelque chose de la parole de Dieu, il arrive à ajuster son comportement à l'Écriture qui, elle, lui apprend ce qu'il est et aussi ce qu'il peut faire. Jamais je remercierai assez Dieu de m'avoir mis sur la route de T.L. Osborne, qui m'a appris ces quatre clés fondamentales du christianisme, de la réussite. Dieu est ce qu'il dit qu'il est, je suis ce que Dieu dit que je suis, Dieu peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire, et je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Si vous avez compris ces choses-là, pas seulement la formule, mais les secrets, les mystères qui sont cachés dans ces formules, ces quatre formules, elles sont dans la Bible, ces clés, ces mystères sont dans la Bible. C'est à vous d'aller les chercher. Dieu s'est penché jusqu'à nous pour nous toucher avec ça. Maintenant, c'est à nous de nous élever pour toucher cela. Un tel chrétien, il va ajuster son comportement à l'Écriture qui lui dit de ne pas être fade, de mettre du sel dans sa vie, de la saveur dans sa vie, pas seulement de la saveur, mais le sel, il a un pouvoir contre le pourrissement, contre la putréfaction. Il faut que tu mettes ce pouvoir dans ta vie, sinon tu vas pourrir sur pied. Tu vas être un religieux, c'est ça un pourri. Les sages, ils mûrissent. Les cons, ils pourrissent. Pardon, Seigneur, je l'ai dit. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que vous voulez mûrir ou pourrir? Le disciple de Jésus, c'est un étudiant de la connaissance qui c'est les Écritures qui dispensent cette connaissance. Le chrétien, lui, il en extrait les mystères. Dans le but de devenir un disciple accompli, Jésus a dit que nous devons devenir comme lui. Et ensuite, Jean a repris l'idée en disant, tel il est, tel nous sommes. Un disciple accompli, et c'est en extrayant dans les Écritures la connaissance que nous pouvons ensuite transformer pour ajuster notre comportement. C'est là que se trouve tout cette transformation de la graine pour en arriver à un épi de grain. Comme le maître. Oh, Michel, hein, tout ça, c'est que interprétation des Écritures, c'est ton interprétation des Écritures. Ok, tu crois ça, c'est bien, tu as raison. Tu as raison, il faut croire ça. Même pas chercher à te convaincre. Mais moi, je sais que ce n'est pas mon interprétation des Écritures. Parce que quand je mets ça en pratique, ça marche. Comment le monde religieux, lui, se dirige-t-il? Par qui est-il dirigé? Il y a une très grande différence. Ceux qui interprètent l'Écriture, ils en sont encore à baptiser les enfants. Savez-vous ça? À qui est confié le soin de la traduction des Écritures? Si vous n'avez pas l'esprit, vous n'avez que la lettre, et la lettre, elle tue. Ceux qui interprètent l'Écriture, ce sont ceux qui se font nommer pompeusement des théologiens, mais qui, pour la plupart, sont encore influencés par Saint Jérôme, qui ne connaissait ni la personne ni la puissance de Dieu. Il faut arrêter avec ces histoires. Pourtant, Saint Jérôme a été utilisé par Dieu. C'est important, Saint Jérôme. C'est comme le germe qui est sorti de la graine. Mais c'est pas le but. Il faut accompagner cela, aller tout le long de la chose, tout le long de l'action de Dieu. Saint Jérôme, il influence encore beaucoup de chrétiens sans qu'ils le sachent. Je ne sais même pas qui c'est Saint Jérôme d'ailleurs. Mais la majorité des chrétiens de base sont influencés par Saint Jérôme. Vous avez vu, à côté de ma place, là où je suis assis, à ma table, il y a une reproduction de la statue de Moïse qui se trouve, c'est au Vatican, le Moïse cornu, là, vous savez. C'est Michel-Ange qui a fait ça. Ça vient de Saint Jérôme. On a mis des cornes sur Moïse. Moi, je dis toujours, c'est le diable qui a des cornes. C'est pas Moïse. Mais dans l'hébreu, le mot corne et le mot rayon, très peu de choses, c'est pareil. Lui, il a vite passé dessus, il a mis corne. C'est écrit que son visage rayonnait. Et lui, il a dit, il est cornu. C'est terrible. Mais ça, c'est juste un détail, pour vous donner un exemple. Et beaucoup de choses. Et puis, c'est passé dans les mœurs. Maintenant, vous ne pouvez pas voir Moïse autrement. Ah oui, vous pouvez le voir aussi autrement, sous la forme de Charlton Heston. Moïse, c'est Charlton Heston. Ça, c'est ce qui est dans la tête des gens à l'heure actuelle. Ceux qui connaissent l'art, pour eux, c'est un cornu. Pas un corps tout nu, un monsieur qui a les cornes. Voilà. Et ils ne savent pas, mais ça vient de Saint Jérôme. Or, tordre le sens des Écritures, pour les cornes de Moïse encore, ce n'est pas trop grave, mais ceux qui osent dire, par exemple, que tel texte ne concerne plus notre époque, que ça, c'était bon pour le temps des apôtres, etc., etc., qui ne se conforment pas aux Écritures, et qui ne... c'est de la résistance au Saint-Esprit. C'est de la résistance au Saint-Esprit. C'est comme si Abraham tuait son fils. Pourtant, c'est Dieu qui avait dit qu'il fallait le faire. Vous voyez? Si Abraham avait tué son fils, s'il avait sacrifié son fils, sans s'occuper de la nouvelle intervention de Dieu, eh bien, il se serait fait l'égal du Dieu qui avait dit « Tue ton fils !» Et il aurait tué son fils comme Dieu a offert son propre fils. Il se serait fait l'égal de Dieu. Mais ce n'est pas à nous de nous faire l'égal de Dieu, c'est à Dieu de nous rendre capables d'être comme lui. Mais nous ne pouvons pas devenir comme lui si nous ne nous élevons pas vers ce qu'il est en train de faire en se penchant vers nous, en nous donnant les Écritures. Vous voyez comme c'est complexe. La foi, ce n'est pas la foi du charbonnier. Oui, mais pourquoi il y a tant de miracles en Afrique? Les gens ils me disent, c'est parce qu'ils sont simples. Ça a l'air de dire, c'est parce que c'est des crétins qui ne comprennent rien du tout. Alors évidemment, quand tu arrives et puis que tu leur parles avec autorité, ils te croient qu'il y a des miracles. Mais c'est insulter Dieu de dire des choses pareilles. Pourquoi il y a des miracles en Afrique? Ça vient d'une foi profonde qui a trempé dans la connaissance véritable des Écritures, qui a été révélée et qui a été restaurée à partir de 1906 par William Branham. Amen. C'est comme ça. Et ensuite, ça a été annoncé par des gens comme Osborne, comme Oral Roberts, comme beaucoup d'autres. Voilà pourquoi il y a des miracles. Demandez aux gens qui vivent là-bas s'il y a tant de miracles que ça. Il n'y a pas tant de miracles que ça. J'ai passé juste après Osborne à Abidjan. Les vieux pasteurs étaient là, m'ont dit. Frère, nous en avons vu défiler des pasteurs, des Américains, des Français, de toutes sortes, des Allemands, mais on n'a jamais vu autant de miracles qu'avec frère Osborne. Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a un don. Voilà, ça c'est la foi du charbonnier, c'est bien. Si vous croyez, c'est bien. Osborne, il dit, j'ai pas de don. Il me l'a dit, Michou était là quand il me l'a dit. Si Abraham avait tué son fils, il se serait fait l'égal de Dieu. Suivre les interprétations de la grande prostituée et de ses dignes filles, qui sont les protestants, les baptistes, les pentecôtistes, les branhamistes et tous les istes que vous voulez, c'est de la résistance à Dieu. C'est de la résistance à Dieu. Mais comment se fait-il, Michel? Tu dis que les protestants, c'est les filles de la grande prostituée? Oui! Au début, c'était la parole de Dieu. Mais ça n'est plus la parole de Dieu. Maintenant, c'est comme la tige. La tige, c'était, ça devait amener jusqu'à la croissance du grain. Mais après, la tige, elle est mise au feu. Je ne suis pas en train de dire que les protestants vont être jetés au feu. Mais si vous restez simplement à la révélation qu'a eue Luther, ça n'est pas suffisant aujourd'hui. Si vous restez seulement à la révélation qu'a eue Wesley, ça n'est pas suffisant. Si vous restez seulement à la révélation qu'a eue Branham, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il y a un cri de rassemblement qui est donné. Et si vous n'êtes pas à l'écoute de ce cri, vous ne pouvez pas entendre la trompette qui va sonner. Grave. C'est grave. Suivre des interprétations. Alors, sont-ils vraiment tous coupables? Mais je ne dis pas qu'ils sont coupables. Je ne dis pas qu'ils seront condamnés. Et en plus, on n'est pas coupable d'être ce qu'on est. Quelqu'un qui n'est que la tige, mais la tige, gloire à Dieu pour la tige, c'est Dieu qui a voulu la tige. Mais chacun de nous bénéficie de l'ordre du temps. De l'ordre du temps, il y a un ordre dans le temps. Alors, maintenant nous sommes à la fin des temps. Pourquoi on dit la fin des temps? Parce qu'il y a 7 temps dans la vie d'une personne, comme dans la vie de l'Église. Premièrement, vous avez un temps pour être ensemencé par la parole de Dieu. Ça, pour moi, c'était le 1er juin 68, avec Raphaël le Gitan. Un temps pour être ensemencé par la parole de Dieu. Le deuxième temps, c'est un temps pour que la semence qui était mise en vous meure. Moi, ça s'est passé entre 68 et 69. Ensuite, vous avez un temps pour qu'elle ressuscite en vous. Ça s'est passé en 69, quand j'ai retrouvé Raphaël. Mais je suis allé le chercher. Il y avait la vie qui me poussait, vous comprenez ? Ensuite, il y a un temps pour qu'elle germe, cette semence qui est morte en vous, pour qu'elle ressuscite en vous, ensuite qu'elle germe. Troisième temps, cinquième temps, il y a un temps pour qu'elle donne de l'herbe, c'est-à-dire qu'elle crève la surface de la terre, qu'elle soit visible, c'est de l'herbe. Ah, un jour, il y a une bonne femme qui m'a dit, « Ah, c'est Michel !» Non, ce n'était pas une bonne femme, c'était un bonhomme, mais il était un peu bonne femme aussi en même temps, lui. Il disait, « Ah, Michel, il sera toujours qu'un jeune converti. » Ouais. Eh bien oui, voilà, gloire à Dieu. Mais ensuite, il y a eu des feuilles. Ça, c'est le sixième temps. Et le septième temps, c'est le temps du fruit, le temps du résultat. Frères et sœurs, le frère Branham est le premier depuis l'apôtre Paul, depuis le temps apostolique, à avoir passé brillamment les 7 étapes. C'est le seul. Parce que c'est à ce moment-là que les choses ont été rétablies, les dons de puissance et toutes ces choses-là. Il a manifesté les 9 dons surnaturels. Qui, avant lui, a fait ça? Il y a eu des miracles, il y a eu des choses. Mais manifestés, non pas par la foi, mais en tant que don, en tant que manifestation de l'Esprit de Christ en lui. Il n'y a que lui. Il a ouvert le chemin. Quelque chose de nouveau est arrivé. Et puis, finalement, ça c'est hors temps, finalement, Jésus vient avec son vent à la main. Vous savez ce que c'est qu'un vent à la main? Le vent, c'est une grande tige comme ça, avec une espèce de lanière ou de chaîne et un autre morceau, et on frappe le blé. Et ça sépare le grain qui est entouré par une fine peau qu'on appelle la balle. Et là seulement, vous êtes l'épouse. Là, il y a de l'air qui souffle, du vent qui souffle, et ça chasse la balle, ça sépare la balle du grain. Pensez que c'est quoi ce vent qui souffle? Ah, le vent du Saint-Esprit, oui, pour séparer la balle du bon grain, celle qui a vaincu dans tous les âges, dans tous les âges. Mais maintenant, en attendant le vent qui sépare la balle du bon grain, vous en êtes au point en ce début d'année d'accompagner le processus de toutes ces phases dans votre propre vie, de ne pas résister à la volonté de Dieu. La volonté écrite de Dieu. Beaucoup de gens cherchent la volonté de Dieu dans la prière. On ne la trouve pas dans la prière. C'est comme tout à l'heure, je vous disais, ce n'est pas dans la louange, c'est dans la connaissance. Et là, ce n'est pas dans la prière, c'est encore dans la connaissance. Qui va ensuite générer des prières qui seront, selon l'analogie de la foi, qui pourront donc être exaucables. Dieu ne demande à personne une chose sans lui avoir donné la possibilité de le faire. Jamais. Ne pas croire que vous avez la possibilité, c'est ça le péché. C'est là l'excuse qui dissimule l'esprit de résistance. C'est là que vous stoppez le processus, par un manque de foi dans ce qui est écrit. Vous ne voulez pas comprendre votre part de divin. Cette part, ça peut vous faire peur. Et cette peur, elle vient dans votre âme, elle est née dans votre âme pour remplacer un vide, pour remplacer le, pour remplir le vide dû au manque d'amour, cet amour inconditionnel que vous devez à Dieu, que vous devez à ce qu'il a créé. Seul l'amour bannit la peur. Une fois que cette peur est partie, vous pouvez être ce que Dieu dit que vous êtes. Vous n'avez plus peur d'être ce que Dieu dit que vous êtes. Vous pensez, oui, mais ça me dépasse. Mais évidemment que ça te dépasse. Mais évidemment que ça te dépasse. La puissance qui est en toi est infiniment plus grande que la puissance, ta puissance humaine. Mais si tu laisses agir sans résistance cette puissance qui est en toi, la puissance de la vie qui est en toi, elle devient ce que les gens du monde appellent l'aura. C'est que les gens du monde, des fois, sont plus avisés que les chrétiens à ce sujet. L'aura. Les vieux artistes montraient comme une auréole au-dessus de la tête de Jésus. Mais ce n'était pas né dans leur imagination, ça. Ce sont des expériences spirituelles. Il émane de toi une aura, c'est-à-dire une puissance de miracle, c'est-à-dire une puissance de vie, une puissance de résurrection. Si tu laisses, si tu n'as pas de résistance, si tu n'offres pas de résistance à la parole de Dieu et que tu te laisses manipuler par le Saint-Esprit, cette aura, ça va émaner de toi sur les autres. Quelque chose de miraculeux, quelque chose qui te dépasse largement. Et c'est pourquoi on dit pas que la gloire ne revienne pas à nous, mais à Jésus. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas nous, ça nous dépasse. Cette puissance qui agit, elle agit chaque année comme un type pour te montrer que maintenant, c'est une réalité spirituelle. Elle agit, cette puissance de résurrection, chaque année au moment de l'équinoxe du printemps. La nature se met à produire une infinité de possibilités. Et là, on va vers le printemps. Ça bouge dans la terre, vous ne voyez rien, mais c'est sa vie. Et toi, tu crois que ça ne vit pas? Mais bien sûr que ça vit. Mais tu n'échappes pas à ça. C'est des cycles. Parce qu'il y a des cycles. Tu sais plus ou moins confusément qu'il y a des cycles. Et si tu étudiais les Écritures, tu trouverais l'origine de ces cycles. Dieu fait tout fonctionner par des cycles. Comme les roues d'Ézéchiel. C'est une autre chose encore. Il faudra qu'on approfondisse un jour. Et cette année, c'est une bonne année pour t'inscrire dans le cercle des amis de Jésus, c'est-à-dire de ceux qui entrent dans la confidence, qui entrent, comme dit Jésus dans Jean 15:15, dans le cercle de ceux qui sont dans la connaissance du plan de Dieu. Je ne vous appelle plus esclave, maintenant vous avez passé la phase supérieure, je vous appelle ami, parce que je vous fais connaître le plan secret de Dieu. Mais ne vous illusionnez pas. L'autre jour, je disais ça à des gens. Ils disaient, « Amen, moi je suis ami de Dieu !» Ne dites pas, « Je suis ami de Dieu, je suis ami de Jésus » si vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes peut-être qu'esclave de Jésus, que serviteur de Jésus. Mais ne soyez pas offusqués par ça. Vous êtes là où vous en êtes. Et puis voilà. Mais maintenant, ne résistez pas. Soyez humble, laissez-vous emporter par le processus de vie. Comment? Par la connaissance. Un mot qui fait peur, je fais exprès de le dire, par la gnose. Ça fait peur parce qu'on pense tout de suite à des diaboliques. Gnose, ça veut dire connaissance. Par la connaissance des saintes écritures, secourues et aidées par le Saint-Esprit qui a dicté ces écritures. Pas par Saint Jérôme. Bien sûr que Saint Jérôme a eu son importance. Maintenant, nous avons Dieu a restauré les choses de l'Esprit dans la vie de l'Église. Par la connaissance des Écritures, par le Saint-Esprit qui a dicté et par l'obéissance qui va vous révéler les choses auxquelles vous devez obéir sans résistance. Vous voyez ? En offrant son Fils à Dieu, Abraham obéissait. En ne l'offrant plus, il obéissait encore. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Abraham, ça signifie cela. Abraham avait sacrifié son intelligence humaine. Il avait sacrifié son humanité pour obéir afin d'obtenir l'intelligence divine. Vous voyez la chose? Pour comprendre le plan de Dieu, pour voir, pour être ensuite, pour pouvoir devenir ensuite le Père, celui qui engendre tous ceux qui ont la foi. Il est devenu le Père de ceux qui ont la foi, pas le Père de tous les chrétiens et le Père de tous les juifs. Tout Israël n'est pas Israël et tout ce qui se nomme chrétien n'est pas chrétien. Qui sont ceux qui ont la foi? Ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont la connaissance de ce que Dieu veut. Ce sont ceux qui ont la connaissance de ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est écrit dans la Bible. Pas besoin d'émotion pour ça. Les autres sont dans l'air, dans l'endroit où il y a le grain avec la balle, et le vent, et l'air, le vent qui souffle, ils sont sous ce vent qui souffle, et ils sont ballottés dans des émotions, mais en réalité, ils ne se rendent pas compte que c'est une œuvre de séparation. Ces émotions qui passent et qui repassent, et qu'ils appellent onction, c'est vraiment du vent, c'est vraiment le Saint-Esprit. Mais attention, ce qui est lourd ne s'envolera pas. C'est le grain. Et c'est Jésus qui le prendra pour le mettre dans son grenier. La foi vient par les Écritures, mes frères et sœurs, parce que les Écritures, c'est ce que Dieu dit. Et il vous faut se collier pour oindre vos yeux, les Écritures. Afin que vous voyez clair. Les Écritures sont employées par Dieu et par vous. Ce sont elles qui vous relient à Dieu. Beaucoup vont me dire, mais non, c'est le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu ne vous relie pas à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Déjà là, ils ont une interprétation avec leur Trinité. C'est les Écritures qui relient Dieu à ses enfants. Les Écritures, elles constituent le conseil de comportement, elles constituent le conseil d'attitude que Dieu attend de nous. La Bible, c'est le trait d'union entre Dieu et vous. Vous devez être amoureux de ce livre, pas idolâtrer ce livre, mais en extraire l'essence, la connaissance nécessaire pour pouvoir être prêt pour partir. Si vous manque cette huile, si vous manque cette production d'huile, vous ne partirez pas. Dans l'enlèvement. Aujourd'hui, Dieu ne parle que par la Bible. Et les prophètes actuels qui prophétisent vraiment, ils ne prophétisent que selon l'analogie de la Bible. On ne prophétise pas selon l'analogie de la Bible, tu vas faire un voyage. On ne prophétise pas selon l'analogie de la Bible, tu vas te marier dans l'année. On ne prophétise pas selon l'analogie de la foi, ceci ou cela. Non, non, ça c'est Madame Irma. Exactement, c'est Madame Irma. Dieu peut faire ça, mais les prophètes ne sont pas appelés à ça. Les prophètes sont appelés à dire ce que Dieu veut pour l'Église, pour l'édification de l'Église. Excusez-moi, je vais dire un terme qui est un petit peu terrible, mais enfin je vais le dire quand même. La Bible, c'est la présence matérielle ou la possibilité matérielle de notre couplage avec Dieu. Voilà le mot terrible, le mot couplage. Mais en fait, nous sommes appelés à devenir un couple, l'époux et l'épouse. Et la parole de Dieu, la Bible, c'est la présence matérielle de des possibilités matérielles. C'est matériel, c'est un livre qui nous offre ces possibilités matérielles pour le couplage. C'est la Bible. Rien d'autre. Tout le reste peut être erroné. Et la Bible, entre les mains de religieux, elle devient un livre de mort, un livre d'interprétation, quelque chose qui ne se vit pas, quelque chose que Dieu ne confirme pas par des miracles. Frères et sœurs, il nous faut donc veiller à notre connaissance. Veillez à votre connaissance. Fortifiez votre connaissance. Approfondissez votre connaissance. Et faites ce que vous avez compris. Que Dieu vous a dit. Amen. Jésus, je te prie pour que cette année soit pour chacun de ceux qui écoutent une année bonne, une année qui, selon ta promesse, fait poindre, fait naître, fait venir à la réalité les choses bien qui ont été semées et que tu puisses faire concourir toutes ces choses-là au seul grand but que tu as. C'est notre bien, notre souverain bien, c'est toi. Notre bien, c'est le fait de notre union avec toi. Je te prie, Seigneur Jésus, que nous soyons véritablement dans cette unité avec toi, en esprit, en vérité, selon la connaissance des Écritures, et non pas avec des émotions et des choses comme ça, de feu étranger, de musique étrangère, de bruit. Aide-nous à revenir dans les sentiers d'autrefois, de la Bible, des saints hommes, des saintes femmes de Dieu qui te cherchaient avec sérieux, avec un infini respect, avec la crainte du Seigneur. Merci Jésus de nous aider à être de telles personnes qui te cherchent dans des moments particuliers, privilégiés, avec leur Bible et le secours de ton esprit. Merci Jésus de nous encourager et de nous donner ce saint désir de faire ces choses pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen.